BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et il est midi une sur BFM Business, l'heure des experts de l'IMO. Mais avant cela, un rappel de l'actualité économique du jour et les marchés européens qui sont dans le vert avant la publication de la statistique la plus attendue de la semaine, en l'occurrence les chiffres de l'emploi et du chômage aux États-Unis pour le mois de juin qui seront connus à 14h30. Ils devraient donner une indication sur les prochaines décisions de la réserve fédérale américaine. Hier déjà, pour sa première grande prise de parole internationale, le nouveau patron de la Fed a ouvert la porte à une future hausse des taux, estimant que les prix restaient, je cite, trop élevés aux États-Unis. Pendant ce temps-là, en Allemagne, le gouvernement annonce un paquet de mesures pour relancer la croissance et la compétitivité. Report progressif de l'âge de départ à la retraite au-delà des 67 ans, allègement fiscal de 10 milliards d'euros pour les revenus faibles et moyens et alourdissement pour ceux qui dépassent les 250 000 euros annuels. Le chancelier allemand, malmené dans les sondages, tente de faire repartir la croissance allemande en quasi-stagnation. Allez, c'est l'heure des experts de l'IMO.
Votre programme avec Bien Ici.
On est bien ici.
Trouvez votre futur logement par vie de quartier et temps de trajet sur bienici.com. BFM Business présente les experts de l'IMO, Marie-Cœur de Roy.
Et les experts de l'IMO, c'est tous les jours à l'heure de votre déjeuner sur BFM Business. Une demi-heure pour parler de notre immobilier, de nos logements. Et comme tous les jours, ça démarre par cette séquence qui vous concerne, amis professionnels de ce secteur, le pro de l'IMO, des témoignages terrain de vos métiers. Et aujourd'hui, on va faire un petit focus un peu particulier, quelque chose qu'on connaît peu et qui est pourtant obligatoire, en l'occurrence, l'assurance. L'assurance dommage ouvrage. Quand vous faites de gros travaux, c'est obligatoire, on la connaît peu et si on oublie de la faire, ça peut poser quelques petits problèmes. On verra ça dans quelques instants avec un courtier. Ensuite, retour en plateau pour le débat du jour. Aujourd'hui, alors attention, neuf ou ancien, ancien rénové, hein, je regarde Laurent parce que quand même, hein, neuf ou ancien rénové, on va essayer de voir comment on peut construire de belles maisons avec un beau confort thermique, des performances énergétiques exceptionnelles. Oui, c'est possible dans le neuf comme dans l'ancien. Mais d'abord, c'est l'heure du pro de l'IMO.
Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO.
Et on est en ligne avec Martial de Joibert, courtier en assurance. Nous assurons à Paris. Bonjour Martial.
Bonjour.
Alors, je le disais en préambule, vous allez nous parler d'un truc. Une assurance qu'on connaît peu et qui est pourtant obligatoire, en l'occurrence, la dommage-ouvrage. Qu'est-ce l'assurance dommage-ouvrage, Martial?
Alors effectivement, c'est une assurance qui est peu connue, même si elle a été rendue obligatoire en même temps que l'assurance responsabilité civile décennale des artisans, qui est plus connue, et cela en 1978. Donc ça fait quand même un moment. Son objectif, c'est d'éviter toute aggravation des dommages suite à des travaux, en préfinançant les travaux de réparation justement, sans aller rechercher la responsabilité civile, la responsabilité de tel ou tel artisan. Donc c'est ça son point fort. Alors effectivement, elle est régulièrement omise par les propriétaires, mais elle n'en reste pas moins obligatoire. Et elle est essentielle pour protéger son patrimoine.
Alors vous dites que attendez, je vous interromps, mais vous dites que c'est obligatoire, mais elle est oubliée par les propriétaires. Petite question, qu'est-ce qui se passe si je l'oublie?
Alors, si on l'oublie, en fait, tout dépend de la suite. Si vous êtes propriétaire et que vous ne revendez pas votre bien dans les 10 ans ou que vous n'avez pas de sinistre, personne n'ira réellement frapper à votre porte, même si elle est obligatoire, mais personne viendra vérifier que vous l'avez souscrite. Néanmoins, en cas de revente, le notaire va vous demander une attestation, comme quoi vous avez bien souscrit cette assurance pour transmettre votre responsabilité sur le chantier au futur acquéreur, ce qui est important. Et si jamais il y a un sinistre, eh bien, il faut être assuré, parce que là, par contre, l'assurance habitation ne protège pas s'il n'y a pas contre les risques en matière décennale, hein, sur 10 ans qui suivent les travaux, contrairement à l'assurance dommage-ouvrage.
Mais elle a un coût, cette assurance, j'imagine?
Effectivement, et c'est souvent pour ça en fait,
qu'on l'oublie volontairement.
Voilà, on l'oublie un peu volontairement. Alors, en fait, le coût en moyenne pour des travaux qui vont jusqu'à 300 000 euros, on va être sur un coût entre 3 500 et 4 000 euros. Hein, donc c'est un coût one shot, hein, qui couvre les 10 ans, et ça peut être assez élevé, puisque lorsqu'on dépasse les 500 000 euros, on peut rapidement arriver à 8, 10 000, voire plus euros à prendre en compte. Donc intéressant de le prendre en compte dans le budget dès le départ, dès le projet.
Intéressant de le prendre en compte ou de l'oublier?
Ou de l'oublier. tout dépend de la suite.
Le pauvre Martial, il est là pour nous parler d'un truc qu'on est en train de dire à la fin. Bon ben finalement, c'est obligatoire, mais c'est pas... Voilà.
Ah non, alors pour le coup, justement, hein, le vrai problème, c'est que en cas de revente, le notaire va vous demander une attestation. Donc si vous ne l'avez pas, ben ça va être une négociation par le vendeur, voire un désistement de l'acquisition. Si vous faites un crédit immobilier, la banque va vous demander une attestation d'assurance décennale pour décaisser les fonds pour vos travaux. Donc il y a quand même une incidence à ne pas souscrire cette assurance.
Et dernière question, juste pour refaire le topo, rappelez-nous les gestes, parce que c'est des lourds travaux dont on parle, hein, qui nécessitent justement cette assurance dommage-ouvrage.
Alors, en soi, c'est effectivement pour des travaux, ce qu'on appelle de construction. À minima, c'est tout ce qui va couvrir le clos couvert du bien, hein, des fondations jusqu'aux finitions de la couverture et des menuiseries extérieures. Donc, c'est la coquille de la maison. Et l'assureur, l'intérêt, c'est qu'il va vérifier tout le dossier, que les artisans sont bien assurés en responsabilité décennale, que tous les travaux sont bien prévus dans le plan de travaux. Et derrière, c'est lourd pour le propriétaire, puisqu'il va devoir délivrer tous les devis, les attestations d'assurance, pour vérifier que le chantier est bien complet.
Dernière petite question, Martial, c'est une question d'Alban, notre réalisateur qui est très proactif dans l'émission à chaque fois. Il me dit, mais on est d'accord que sur des travaux de rénovation thermique, par exemple, on n'en a pas besoin.
Alors, travaux de rénovation thermique, tout dépend ce que ça va toucher. Si on fait des travaux de rénovation thermique en touchant à la charpente, par exemple, ou en modifiant la toiture, il va y avoir une nécessité d'assurance dommage-ouvrage.
Ah mince, donc, alors ça, c'est dommage.
En fait, ouais, en soi, dès qu'on touche à un élément qui est couvert en matière décennale par l'artisan, l'assurance dommage-ouvrage est obligatoire.
Mais enfin, on est d'accord que les artisans, les gens qui vont prendre en compte mes travaux de rénovation, ils sont censés m'alerter là-dessus. Il y a une espèce de devoir de conseil, non ?
Oui, alors c'est déjà alerté, hein, par les architectes l'indiquent. La mairie, quand on a un permis de construire ou une déclaration de travaux, c'est noté également dessus et les artisans sont censés l'indiquer.
D'accord.
La réalité du terrain, c'est que c'est pas toujours le cas et que elle est très peu connue, donc très mal présentée aux propriétaires.
Et ben aux gens qui ont la bonne idée d'écouter BFM Business et les experts de l'IMO tous les jours sur BFM Business, et ben comme ça ils le sauront. Merci Martial, Martial de Joybert, courtier en assurance. Nous assurons à Paris. Si comme Martial vous avez des témoignages à nous apporter, des petits tips, des petits focus sur certaines assurances visiblement obligatoires, mais qu'on ignorait, ben n'hésitez pas à nous écrire. On a une adresse mail, lesexpertsdelimo@bfmbusiness.fr. Allez, c'est l'heure du débat.
Les experts de l'IMO, le débat.
Alors ouais, c'était pas du tout fait exprès, mais en fait on a deux invités qui peuvent en parler de cette assurance dommage-ouvrage. À mes côtés, Hervé Chavet, directeur technique et R&D chez Exahome. Bonjour Hervé.
Bonjour.
Et également avec nous Laurent Nataf, le président et cofondateur d'Omelior. Bonjour Laurent.
Bonjour Marie.
Ouais, vous vouliez réagir par rapport à cette assurance,
Hervé ? En tout cas, en maison individuelle avec le contrat de construction, donc chez les constructeurs de maisons individuelles, la dommage-ouvrage est obligatoire.
D'accord. Mais ça, c'est vous qui gérez, c'est pas à moi. Vous m'en informez.
En fait, c'est une assurance supplémentaire.
Ouais.
Il y a l'assurance de l'artisan. Et le client est assuré pour sa maison par l'intermédiaire de la DO.
Mais vous me dites.
On le met en avant, puisque c'est. En gros, l'assurance artisan, vous êtes assuré au tiers.
Ouais.
Avec la DO, vous êtes tout risque.
Ah oui, donc c'est quand même. Alors, c'est quand même une protection.
C'est là le distinguo. Et nous, c'est dans le prix convenu dans la maison.
Voilà, c'est ça, c'est intégré, c'est pas...
Et elle court pendant 10 ans.
Laurent ?
Alors nous, sur des travaux de rénovation énergétique classique, on va dire, d'isolation, de chauffage, non, c'est pas une assurance qu'on va utiliser, mais c'est une assurance en fait que je connais. Alors plus personnellement, sur des cas de réhabilitation qu'on a pu avoir, oui, elle est obligatoire. Et je me rappelle très bien justement d'un cas où oui, ça protège aussi le futur acquéreur du bien s'il y a une vente qui se fait dans les 10.
Ouais, il y a Alban, il est à fond. Alban, un jour, faudra venir en plateau parce qu'il me parle dans l'oreillette. Faudra vraiment venir en plateau. Il me dit oui, mais si on isole les murs, les combles, machin, il y a pas un sujet quand même.
Alors, ce que j'entendais de la part de votre invité, c'est que si on touche à la charpente, alors clairement quand on fait des travaux d'isolation. Alors nous, dans notre cas, on va isoler la charpente.
Oui, c'est ça, vous n'allez pas l'abîmer.
l'abîmer, on peut
la
le dire.
La déstructurer, on va dire comme
oui,
ça.
Il
ouais.
n'y a pas de travaux de structure qui sont faits dans les projets qu'on va accompagner et financer.
Tout, voilà,
mais ouais, ça.
On la doudoune. Bon, vous n'étiez pas du tout là pour parler de l'assurance dommage ouvrage, mais visiblement, ça passionne tout le monde. Vous étiez là pour me dire que oui, il est possible d'avoir des maisons ultra performantes, canicule oblige, avec un confort thermique exceptionnel. C'est possible. Évidemment, dans le neuf, j'ai envie de dire. Mais Laurent, vous nous direz que c'est aussi possible dans l'ancien quand on fait les bons travaux de rénovation.
Évidemment. Alors,
d'abord, Hervé, j'ai envie de dire, c'est quoi une maison ultra performante aujourd'hui chez Exahome? Et ça veut dire quoi techniquement et pratiquement? Je veux avec des mots simples. Qu'est-ce mais que ça va m'apporter?
Essayer. Alors déjà, nous, on part de zéro. On a un terrain. Donc, tout l'objet, c'est, on va jouer sur les règles du bioclimatique, l'orientation de la maison. On va jouer sur les ouvertures, on va jouer sur la forme de la maison, si on peut mettre de la végétalisation à l'extérieur, le type d'ouverture, si on monte ou on descend les stores en fonction de la luminosité.
Ça peut se faire de
sur
manière
niveau
automatique
d'isolation.
En plus. Ouais.
Voilà. Et donc, en partant de zéro, en fait, on peut créer la coquille pour répondre aux attentes du client en intégrant les canicules passé, enfin à venir, et le chaud qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir,
ouais,
jusqu'à
bien
présent.
Sûr. Mais moi, j'ai une question à vous poser, parce que je ne veux pas me faire le relais de certains qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux ces dernières semaines, mais en disant « Oui, moi, mon logement neuf, il a été livré il y a 3 ans, c'est un four, on m'a expliqué que ce serait formidable, mais en fait, pas du tout, fait 35 à l'intérieur. »
Alors là, je vais reprendre juste un peu de recul. Premier choc pétrolier, dans les années 70, la réglementation thermique sort. Et donc, tout l'objet, c'était réduire les consommations, améliorer le confort en hiver. Donc, on a eu 74, 78, après les années 2000, 2005, 2012. 2012, on commence à parler des maisons BBC, basse consommation. Et là, pour la première fois, on intègre le fait, dans le cadre réglementaire, la notion de risque de surchauffe en été. Donc, comment on va faire? Et ça s'est accéléré avec la RE 2020, réglementation environnementale
version
2020.
Version 2026 aujourd'hui quand même, là, non?
2026, oui. Donc,
parce qu'il y a eu quand même à l'intérieur de la RE 2020,
il y a eu des petites évolutions essentiellement sur l'impact carbone des maisons.
D'accord.
Et donc là, aujourd'hui, les maisons qu'on fait, en fait, on les dimensionne, on les adapte. Ça, c'est la réglementation. Donc, on peut aller au-delà. Et on se base, bon an, mal an, sur un été 2023. Donc, il y a des modèles de mathématiques qui reprennent les données météo de la canicule de 2023.
D'accord.
Et donc, on se donne pour objectif de tenir un certain niveau de confort dans la maison. Donc là, je voulais pas rentrer dedans, mais on va y aller.
Ah bah ouais.
Donc, c'est le degré heure, le DH. En fait, il y a tout un système de calcul où on prend en compte l'isolation, l'étanchéité, enfin tout ce que vous voulez dans la maison. Les volets roulants, entre autres.
Oh là mais là par mais contre... Vous me parlez de ça, je me suis fait les muscles toute la semaine dernière. Là, et encore, je fais partie des grands bourgeois qui ont la chance d'avoir des volets chez moi à Paris, c'est un truc de dingue.
Mais par contre, on ne prend pas en compte la climatisation. D'accord ? On fait ça, c'est la maison, en gros, c'est d'une manière passive.
Ouais, bien sûr.
Et donc à partir de là, on va se dire, bah, à tel endroit... Je vais mettre 12, 14 cm d'isolant. À tel autre endroit, je vais mettre des volets roulants.
Je vais faire dans la dentelle,
et ainsi de suite. Ouais. Voilà comment ça se passe.
D'accord. Mais pour toutes celles et ceux qui ont été livrés donc avant et qui n'ont pas cette chance, voilà, et qui se disent bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant comme geste? Parce que, en fait, ce que vous allez dire, je pense l'un comme l'autre, Laurent, c'est. On a tellement regardé l'hiver, on a tellement regardé le confort d'hiver, la question des passoires, qu'on a complètement mis de côté la question des bouilloires. Il y a presque des gens qui ont fait des gestes complètement contre-intuitifs aujourd'hui, qui ont voulu se protéger de l'hiver, mais qui sont créés une véritable bouilloire thermique. C'est quoi les gestes à faire pour rendre ma maison, j'ai envie de dire, confortable tout le temps, quoi?
Bah écoutez, c'est quelque chose que je dis souvent sur votre plateau et qui va un peu à contre-courant de ce que nous dit notre gouvernement aujourd'hui.
Ça m'étonne pas, par contre.
Bah, ça, voilà, on comprend pas trop, et d'ailleurs, on pourra en parler après, mais on a des changements au mois de septembre qui vont dans cette direction. Mais
toujours vraiment les bons timings.
Voilà. clairement, aujourd'hui, si on veut améliorer son habitat, que ce soit en hiver ou en été, il y a des points qui sont et primordiaux et qui sont obligatoires, c'est isoler vos logements. Une maison isolée, c'est une maison qui garde la chaleur en hiver et qui garde la fraîcheur en été.
Ouais, alors il y en a certains, je vous interromps Laurent, parce qu'il y en a certains qui disent aujourd'hui, bah ouais, je suis tellement isolé, qu'en fait tout le chaud qui est rentré, parce que j'ai peut-être pas assuré une cacahuète au moment des pics de chaleur, et ben j'arrive pas à le sortir de chez moi.
Il y a des périodes de canicule quand il fait 45 degrés, évidemment, ouais. On est dans des cas beaucoup plus complexes. Mais une maison aujourd'hui qui est très bien isolée, elle gardera la fraîcheur. Si elle est pas isolée, qui fait chaud dehors, de toute façon le chaud va rentrer. Après une maison très isolée, il y a des points comme la ventilation qui sont très importants, etc. Mais le point central en fait d'un logement, c'est vraiment l'isolation. Une maison isolée, dans tous les cas, vous serez mieux loti en période de... Il y a des cas exceptionnels, 45 degrés de canicule, vous ne pourrez pas avoir 15 degrés chez vous sans climatisation, ce n'est pas possible. Mais par contre, si vous voulez avoir un écart plus important, il faut qu'on soit isolé. Donc l'isolation, ça passe évidemment par le toit, ça passe par le sous-sol, ça passe par les murs, les fenêtres, les portes, les portes-fenêtres, ça passe évidemment par les volets roulants, vous en parlez. En cas de canicule, c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui est très important. Et d'ailleurs, on conseille de fermer ces volets en période de canicule. Mais voilà, ça passe d'abord par l'isolation. Et c'est un point sur lequel, en fait, on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui pourquoi nos autorités font un peu marche arrière
mais
sur l'isolation.
Mais mettez les pieds dans le plat, là, Laurent, on va y aller. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en fait, effectivement, aujourd'hui, déjà, c'est sous-subventionné, en tout cas, quand c'est des gestes seuls d'isolation. Il n'y a plus de subvention MaPrimeRénov' quand vous faites juste l'isolation. Il faut que ce soit... forcément dans une réno globale. Et à partir de l'année prochaine, c'est plus rien du tout, c'est ça l'idée?
Plus rien du tout. Ils enlèvent, en fait, l'isolation des combles aménageables. Donc, tout ce qui est rampant de toiture, ils les enlèvent. Et on nous a enlevé déjà l'isolation des murs extérieurs. Donc, il y a plein de choses qui partent de MaPrimeRénov'. Donc là, on parle des particuliers, bien sûr. Et c'est vrai que c'est incompréhensible, puisque même si on va dans la logique aujourd'hui de nos autorités de dire on installe des pompes à chaleur, parce que c'est ça un peu on électrifie, on installe des pompes à chaleur, mais si on installe une pompe à chaleur dans un logement qui n'est pas isolé, on sera en surconsommation électrique et dans tous les cas on fera pas d'économie.
Et alors ce qui est dingue, Laurent, je vous interromps parce qu'on avait le ministre du logement ce matin qui était sur le plateau, interrogé par Sandra Gournoin sur BFM Business, qui était justement interrogé là-dessus et qui disait oui, mais nous ce qu'on veut c'est mettre le paquet sur la réno globale. Ok, et le problème c'est qu'il tenait le même discours que vous qui était de dire bah évidemment c'est complètement idiot de mettre juste des pompes à chaleur, on est d'accord, monsieur le ministre. Si on n'a pas isolé avant, on est encore d'accord. Mmh. Et il dit, mais il faut faire la réno globale. D'accord. Là-dessus, on est tous d'accord, mais il y a des gens qui n'ont pas les moyens de faire la réno globale, en fait.
Vous avez deux cas. Vous avez un, ceux qui ont déjà des pompes à chaleur et qui ne sont pas isolés, donc qui ont le droit à rien et qui surconsomment. Et vous avez aussi, on a aujourd'hui évidemment tout un tas de cas qu'on oublie en enlevant le monogeste. Et surtout, on autorise aujourd'hui des subventions de pompes à chaleur si la maison n'est pas isolée. Et c'est surtout ça, en fait, qui est illogique. Si on nous dit, il faut une réno globale, très bien, mais dans les deux sens. Aujourd'hui, on a le droit d'installer une pompe à chaleur dans une maison qui est une passoire thermique. Et on a des subventions pour ça. Et c'est ça, en fait, qu'on trouve illogique. Évidemment qu'on serait d'accord qu'il y ait une sorte d'accompagnement pour installer pompe à chaleur plus isolation. Ou alors qu'on conditionne l'installation de la pompe à chaleur à une isolation et qu'il y ait une aide qui aille avec.
Et même chose, juste d'un mot, et après je redonne la parole à Hervé, mais juste d'un mot sur les pompes à chaleur. On est d'accord qu'aujourd'hui, les pompes à chaleur réversibles, donc celles qui font de la climatisation, elles ne sont pas subventionnées ou très peu.
Très peu.
Ok. Non, mais parce que ce matin, visiblement, j'entendais Monsieur le ministre dire qu'à ce stade, c'était pas vrai. Mais si, c'est vrai. Donc, on est d'accord.
Ah, je vous confirme à 100%. Il y a des toutes petites aides qui existent et on est sur du x10 et qu'on est sur une pompe à chaleur qu'on appelle RO, qui chauffe l'eau des radiateurs et qui ne fait pas de climatisation du tout.
Quand vous écoutez ça, Hervé, vous vous dites super, j'ai encore de beaux jours devant moi sur le logement neuf. Non, j'imagine sur le tout neuf.
Après, au niveau de l'entreprise, on fait aussi la rénovation.
Bien sûr. Ouais, j'entends.
Après, c'est vrai que l'inertie, c'est dommage. L'isolation par l'extérieur, c'est dommage. Puisque ça apporte de l'inertie. Donc, ça a deux effets. Ça améliore la résistance, l'isolation de la maison. Mais ça met de l'inertie. C'est un peu le phénomène comme quand on rentre en été dans une cathédrale, on sent le frais.
Et il y a aussi le choix des isolants, non, Hervé? Parce que moi, j'en ai beaucoup entendu parler sur le fait que, alors je ne sais plus comment s'appelle cette unité de mesure à travers l'isolant, de se dire, en gros, il y a des isolants qui vont capter la chaleur et qui vont la retenir avant qu'elle ne pénètre à l'intérieur pendant que 3 ou 4 heures, et d'autres pendant 8 heures. Et donc, il y a aussi la qualité de l'isolant qu'on va choisir qui est intéressante. De mémoire, donc, c'est les isolants biosourcés qui sont les plus performants, en tout cas l'été, type laine de bois, liège, paille, etc. A priori, ça a une faculté à capter la chaleur plus longtemps avant de la laisser pénétrer à l'intérieur, non ? Que le polyuréthane, que la laine de verre, la laine de roche, qui sont très bien l'hiver, mais qui peut-être ont des performances un peu moins bonnes l'été.
La mesure, en fait, c'est l'inertie. Et en fait, l'inertie, elle est souvent liée au poids. Donc, si vous mettez un isolant fibre de bois qui est plus lourd qu'une laine minérale, en fait, de fait, vous aurez plus d'inertie.
D'accord.
Après, entre une fibre de bois et un parpaing, le parpaing a nettement plus d'inertie. Quoi.
Ouais.
Donc c'est pour ça. C'est,
après, on met tout.
On peut
dedans,
les échelonner
ouais.
entre eux, les isolants, mais c'est surtout la masse du bâti qui fait l'inertie.
Mais justement,
la brique, le parpaing,
mais ça, c'est une
béton,
réflexion
c'est ça,
aussi que vous avez chez Exaum au moment de la conception du logement neuf, c'est-à-dire au-delà même de. Évidemment, c'est passionnant de se dire en quelle fait, orientation, le côté traversant, est-ce que je peux créer, c'est quoi l'effet Venturi. Là, on a vu un reportage sur France
oui,
Télé, c'était très chouette.
C'est de la surventilation où on pousse l'air vers le haut.
Mais ce sujet du choix des matériaux, il est quand même crucial, j'imagine, dans la construction neuve.
Bah, il est crucial et à chaque fois, on l'intègre, on le modélise. Ce qu'on appelle dans une maison l'inertie. Et donc l'inertie, on va la qualifier en fonction de ce qu'on a mis et comment on a mis le produit. Donc un produit, vous faites une maison en ossature bois qui a plein de qualités en isolation thermique. Après, si on passe en isolation par l'extérieur, c'est autre chose. Mais elle aura moins d'inertie qu'une maison en brique. Donc ça fait que quand on va rentrer en période de canicule, vous allez sentir un peu plus de frais dans votre maison en parpaing ou en brique. Et mais au bout d'un moment, quand on arrive au niveau qu'on a vécu la semaine dernière, quand le soir, enfin moi je suis sur Lyon, la nuit il fait 32, 33, vous faites plus rien quoi. La seule solution, c'est de tomber dans du rafraîchissement actif, donc de la clim.
Petite question d'ailleurs, tant que je vous tiens, est-ce que vous avez du côté des clients justement plus de demandes justement là d'installation avec clim intégrée? Est-ce que c'est quelque chose qui se
C'est flagrant. c'est vraiment flagrant. Alors déjà, les maisons aujourd'hui, nous et les confrères, hein, on met beaucoup de pompes à chaleur, pour pas dire que des pompes à chaleur.
Réversibles pour le coup, on est d'accord?
Alors certaines font que du chaud.
D'accord. Parce qu'elles sont plus subventionnées?
Non, il n'y a pas de subvention en fonction de ce qu'on met dans la
d'accord.
maison. Il y a un prêt à taux zéro, mais qui est, c'est d'autres paramètres.
Ah ouais.
Et puis, donc, on a des pompes à chaleur à, je crois que c'est 95% des installations, bon an, mal an, aujourd'hui. Par contre, là, il y a une vraie demande de climatisation de réactif. Donc, d'être plutôt sur un système R.
Ouais, c'est ça.
Parce qu'on peut climatiser par des ventilos convecteurs, par du plancher chauffant, mais on ne peut pas tomber à des températures comme on arrive à tomber avec un climatiseur si on souhaite à 22, 23, quoi.
Mais donc, il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer au niveau de la climatisation, et c'est la même question que j'ai envie de vous poser, Laurent. J'imagine que vous aussi, du coup, comme en plus vous êtes, alors pour le coup, avec des aides spécifiques dont il faut analyser les répercussions sur le budget global, là, j'imagine que ça doit être des coups de fil tous les jours.
Oui, la demande, que ce soit chez nous ou chez notre réseau d'artisans partenaires, la demande explose. D'ailleurs, il y a une rupture de stock.
Comme chez Lidl,
national,
sachez-le, il y a plus de ventilos chez Lidl,
les gens qui font la queue à l'entrée. Donc, ce qu'on comprend. Donc après, la question, c'est de savoir est-ce que on prend la décision maintenant, en fait, de changer un peu nos modèles et de pousser en fait les Français vers l'installation de climatisation. Et pour ça, alors ce qui fera aussi le chauffage. Hein, donc on participe à l'électrification grâce à ces pompes à chaleur RR. En tous les cas, aujourd'hui, elles ne sont pas ou très très peu aidées. Donc c'est plutôt considéré comme du confort que comme de l'économie d'énergie, mais on se rend compte en tous les cas que quand on installe ça, il y a un confort qui est assez exceptionnel chez les particuliers. Ils sont extrêmement contents de pouvoir bénéficier d'un chauffage en hiver et d'une climatisation en été. Et je veux le répéter, c'est important, on installe ces produits que dans des logements isolés. Donc si notre gouvernement nous entend, permettez-nous en fait d'isoler ces logements, parce qu'en fait c'est on est en surconsommation et tout ce qu'on souhaite pas aussi, même si c'est une énergie qui est peut-être plus propre que du gaz ou du fuel, mais en fait on surconsomme si on n'isole pas en fait le logement. Et c'est vrai que c'est tout l'avantage que vous avez sur les logements neufs. Quand vous arrivez sur un logement neuf, bah vous partez d'une page blanche, donc le logement est super bien isolé. Et quand on installe ce type de pompe à chaleur, quand on installe que ce soit de l'aéro ou de l'ARR, bah oui, on fait des économies, oui, c'est super rentable, et oui, c'est l'avenir. Mais nous, aujourd'hui, on a le droit de nous faire des demandes d'installation de ces produits sans avoir une maison isolée.
Messieurs, il nous reste que 2 minutes, je sais, le temps passe systématiquement trop vite, mais j'ai quand même une question à vous poser, parce que c'est aujourd'hui la référence, elle mesure... Bon, correctement aujourd'hui, mais pas vraiment demain. Hein. Verrons là les bouilloires thermiques et cet indicateur. Je veux savoir quelles sont vos notes de diagnostic de performance. Alors, pour vous, j'imagine que ça doit...
La réglementation, les réglementations et autres, ça fait que ça nous emmène automatiquement sur du A. Après, A+, A++, ça n'existe pas. Donc, mais on est automatiquement sur du A. Mais c'est le neuf, donc.
Ouais, voilà. Et alors, et encore que dans le collectif, parfois, on tombe sur du B en fonction de.
Oui, alors après,
il y a. Je tiens à le dire.
Non,
quand
non,
même.
Non. Après, il y a un effet de surface et dans le calcul, mais bon, normalement, le neuf dans son ensemble, appartement ou maison, on est normalement sur du A.
Sur les meilleures notes possibles et sur la question de la bouilloire thermique et de ce confort d'été qui a une indication aujourd'hui dans le diagnostic mais qui est un peu pourri, on va pas se mentir, c'est un petit smiley. Ouais. Bon, moyen, insuffisant. Globalement, tout le monde est quasiment moyen ou insuffisant. Hein.
Alors, pour le 9, je suis pas rentré dedans, mais nous, on le qualifie, ça s'appelle les degrés heure, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, à partir d'un certain seuil, on n'est pas conforme. Donc, on n'a même pas le permis. Donc, on reprend notre copie, on réétudie pour revenir, pour être dans un confort acceptable. Alors, soit un bon confort, soit un confort acceptable.
Mais ça veut dire quoi? C'est une garantie? Il fera pas plus ou pas moins de 24 degrés toute l'année? C'est quoi?
Alors, en gros, on dit, normalement, sur 3 jours dans l'année, par rapport à une canicule de 2003.
Ouais,
attention.
J'ai bien compris, hein.
Votre logement va pas dépasser telle température.
Okay,
mais là, on a vécu un truc qu'on n'avait pas vécu jusqu'à présent.
Vous savez quoi, l'année prochaine, ça se trouve, votre cahier des charges, ça sera par rapport à la canicule de 2026.
Ça sera peut-être la référence.
Ça sera peut-être la future référence. D'un mot, Laurent, quand je retape ma maison qui était passoire, quelle note je peux viser et atteindre?
Alors, tout dépend du budget que vous êtes prêt à mettre, évidemment, dans
tout
cette rénovation.
Tout dépend de notre ministre du Logement.
Oui, en fait, on peut arriver à des choses super intéressantes. On peut arriver à du A. Alors, plus généralement, sur une maison individuelle, on arrive à du B ou à du C. Sur vraiment une rénovation globale, on va reprendre tous les points d'isolation, en passant par les portes et les fenêtres, et le système de chauffage. On arrive à du B ou du C. Dans du collectif, c'est un peu plus compliqué. Sur une rénovation d'un immeuble collectif, si on change le chauffage et qu'on isole un peu, on arrive généralement plutôt vers du D, parce que justement, il y a ces notions de surface qui rentre en jeu, mais ce qui suffit pour plutôt vivre correctement.
Oui, et puis on attend que du coup derrière on puisse avoir un indicateur aussi très fiable sur.
Et B ou C en existant, c'est top.
Ah oui, oui, non, mais même D, ouais, j'ai envie de dire.
Bien. Ah oui, complètement. Sur une maison individuelle, de toute façon, isoler les murs, isoler les combles, isoler le sol, fenêtres, portes, volets roulants et pompe à chaleur, on arrive à un B, la maison, là, on est tranquille.
Mais rien n'est impossible, rien n'est impossible. La question, c'est quand la rénovation nous permettra de garantir aussi des températures acceptables toute l'année.
Bah déjà, qu'on ait des dispositifs qui tiennent sur le temps.
Bah oui, c'est ça.
Qu'on nous fasse un petit peu confiance, qu'on nous laisse travailler sur moins quelques années, puisque là, en ce moment, on en parlera une autre fois, mais 1er septembre, des gros changements encore. On va encore changer de stratégie pour s'adapter à cette réglementation. Mais
l'appel est lancé. Merci, ouais. Laurent. Merci Laurent Nataf, président et cofondateur d'Omélior, et Hervé Chavet, directeur technique et R&D chez Exao. Merci d'avoir été avec nous dans les experts de l'IMO sur BFM Business. On revient demain pour un nouvel épisode.
Les experts de l'IMO sur BFM Business.